Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Together, we, the Conservative Party, can build a better
Britain.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no.
Bonjour à tous. Élections législatives à haut risque pour le Parti conservateur britannique. En plein traumatisme post-attentat, la question de la sécurité s'est hissée en une des préoccupations des électeurs qui doivent se prononcer jeudi pour élire de nouveaux parlementaires. Une thématique qui n'a pas encore complètement éclipsé le sujet phare de cette campagne, le Brexit. La Première ministre Theresa May souhaiterait une majorité renforcée pour être en position de force lors des négociations avec Bruxelles. Mais les opposants à la sortie de l'UE ne désarment pas, notamment par le biais de deux mouvements, Open Britain et Best for Britain. Reportage à Londres, signé Marie Billon.
Vauxhall, au sud-ouest de Londres, l'une de ces circonscriptions très incertaines, où toutes les manières de voter sont possibles, surtout celle du vote tactique. Un samedi de mai, les volontaires de la campagne Open Britain, successeur de la campagne officielle anti-Brexit Stronger In, retroussent leurs manches. Ils distribuent des tracts, discutent avec les passants, tout cela aux côtés des militants du candidat libéral-démocrate George Turner. Open Britain est un groupe de pression pro-européen non partisan, l'un de ses chantres du vote tactique. James McGrory en est le co-directeur.
Nous estimons que l'élection d'un député opposé à un Brexit dur permettra de réduire la majorité gouvernementale. Du coup, elle aura moins les mains libres pour imposer sa version extrême de la sortie de l'UE. Nous faisons campagne dans des circonscriptions clés, là où il y a un candidat pro-Brexit dur, en face d'un candidat qui y est opposé.
Open Britain invite donc au vote tactique et fait campagne dans une cinquantaine de circonscriptions, dont Vauxhall, car à la députée et la travailliste Kate Howey, une farouche partisane du Brexit.
Please welcome the Labour MP Kate Howey.
La parlementaire participait ici à un débat lors de la campagne menant au référendum l'an dernier, ce qui n'a pas dû enchanter les habitants de sa circonscription puisqu'ils ont voté contre la sortie de l'Union européenne à plus de 76%. Kate Howey, pourtant élue sans discontinuer depuis 1989, avec une majorité de 12 000 voix en 2015, pourrait-elle être la victime du Brexit? C'est ce qu'espère Mark Pack, un militant libéral-démocrate qui se déplace dans toutes les capitales pour former des militants et faire lui-même du porte-à-porte.
Vauxhall est un cas fascinant. Si on s'en tient aux résultats des dernières élections, on peut facilement penser que c'est un siège solidement ancré dans la gauche travailliste. Mais la députée, Kate Howey, est souvent apparue aux côtés de Nigel Farage, l'ex-leader du UKIP, alors que ses électeurs ont voté contre le Brexit. C'est l'exemple parfait d'une élue dont les opinions sont diamétralement opposées à celles de ses électeurs.
Et les centristes font une campagne agressive. Ils ont notamment distribué des tracts violets, la couleur du UKIP, affichant la moitié du visage de Kate Howey, combiné à celui de Nigel Farage, l'ex-chef du Parti populiste. Aujourd'hui, le UKIP a décidé de ne pas présenter de candidat face à Kate Howey pour ne pas diviser les votes, comme l'a expliqué Paul Nuttall, le leader du Parti populiste, dans l'émission quotidienne de la BBC The Daily Politics.
Afternoon, folks. Welcome to the Daily Politics.
Nous ne nous présenterons pas dans les circonscriptions où un vrai Brexiteur est en situation difficile. Un vrai Brexiteur, pas un opportuniste ou pro-Brexit de circonstance, pas quelqu'un comme Theresa May qui était pro-européenne durant la campagne. Des gens qui ont fait campagne avec le UKIP, avec qui on a partagé un podium, on leur laissera la place.
Kate Howey coche effectivement toutes les cases. Le vote tactique n'est l'apanage ni de la gauche, ni de la droite, ni du centre à cette élection, rappelle Marc.
Il y a toujours eu une part de tactique dans les scrutins britanniques. D'habitude, elle était motivée par la volonté d'éliminer un parti. Mais cette année, il y a en plus l'argument européen. De quoi réfléchir pour les électeurs qui ont l'habitude de voter travailliste, mais qui constatent leur manque de motivation pour défendre l'UE, notamment au Parlement. Beaucoup vont donc être tentés de voter pour le candidat le plus pro-Europe, et cela pourrait donner des résultats complètement différents de ceux des dernières élections qui ont ont eu lieu il y a seulement 2 ans.
C'est en tout cas ce qu'espèrent les deux principaux promoteurs des campagnes apolitiques de vote tactique qui ont vu le jour pour ces élections. Il y a donc Open Britain, mais il y a aussi Gina Miller, cette activiste qui a attaqué le gouvernement en justice pour l'obliger à demander au Parlement le droit de déclencher l'article 50 et donc le démarrage effectif des négociations du Brexit. Dès que l'élection surprise a été annoncée, elle a mis en place sa campagne Best for Britain. Profitant de sa forte notoriété, la campagne de Gina Miller suscite un grand intérêt. Comme Open Britain, avec qui elle ne travaille pas, même si les deux campagnes assurent ne pas être brouillées, Best for Britain soutient les députés qui ont une chance d'être élus. Elle est même ouverte à l'idée de soutenir des conservateurs, même si aucun ne peut vraiment s'afficher avec un groupe de pression qui a pour mission de faire passer un sale quart d'heure à son parti.
L'important pour nous, c'est de limiter l'ampleur de la victoire des conservateurs, du bain de sang, comme certains l'appellent. Car si nous n'obtenons pas un certain équilibre avec des voix divergentes au Parlement, nous n'aurons pas de démocratie.
Ni Gina, ni Open Britain n'espèrent se réveiller le 9 juin prochain sans Theresa May à Downing Street. Vaincre les conservateurs leur semble trop ambitieux. Le but est bien donc de former une opposition anti-Brexit, voire si possible pro-européenne. L'actualité a bien sûr rattrapé les campagnes tactiques et les 3 attentats que le Royaume-Uni a connus en 3 mois pourraient bien avoir une influence sur la manière dont les Britanniques feront leur choix jeudi.
Les djihadistes, on en a encore beaucoup parlé après ce 3e attentat qui est venu frapper l'Angleterre. Des djihadistes déjà repérés pour certains par les services de police. Sur le continent, un petit pays suscite aussi beaucoup d'inquiétudes. Il s'agit du Kosovo. 316 jeunes sur une population de 2 millions d'habitants sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak. Un record. En Italie, qui compte une forte communauté kosovare, on est sur ses gardes. Surtout depuis qu'un attentat à Venise dans lequel des Kosovars étaient impliqués a été déjoué en mars dernier. En 2015, Pristina s'est pourtant dotée d'une loi qui punit sévèrement ses ressortissants partis combattre à l'étranger. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Reportage sur place de Mercia Nezic.
L'histoire de Nasser Deva n'est pas inédite au Kosovo. Cet ancien professeur, athée dans un pays majoritairement musulman, n'a pas pu empêcher son fils de partir faire le djihad en Syrie, tout comme 300 autres jeunes kosovars. C'était un élève ingénieur brillant, mais voilà, il y a quelques années, il a rejoint le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. À la terrasse d'un café de Peye, dans le nord-ouest du Kosovo, son père se désole de ne pas avoir vu venir les signaux d'alarme.
Fin 2012, j'ai bien vu qu'il y avait un problème avec mon fils. À la maison, il parlait peu, il parlait surtout de religion. Il n'avait pas encore une barbe bien fournie, mais il avait arrêté de se raser. Bien sûr, je me suis opposé à tout ça. Mais avec le lavage de cerveau qu'il a subi, c'était trop tard pour faire quoi que ce soit.
Son fils a transité par la Turquie avant de rejoindre la Syrie. Ce pays fait partie des rares destinations où les Kosovars peuvent se rendre sans visa. Il avait raconté à sa famille qu'il avait trouvé du travail à Istanbul, un argument difficile à contrer. Au Kosovo, 60% des jeunes sont au chômage. Les recruteurs des djihadistes de la région le savent bien. C'est souvent par le biais d'un petit boulot qu'ils commencent à les embrigader. Les autorités kosovares pro-européennes et pro-occidentales se veulent intraitables. Elles envoient ces recruteurs en prison, à l'instar de l'ancien imam de la principale mosquée de Pristina, arrêté il y a 3 mois. Mais il faudrait être encore plus sévère, estime Nasser Deva.
Ils ont condamné à seulement 7 ans de prison à un recruteur qui avait envoyé un jeune homme en Syrie et l'autre en Irak. Fatos Rizvanoli de Peja, c'est un homme d'affaires. Il porte le pantacourt et la barbe. Il leur a acheté le billet. Les deux jeunes sont morts. Il y en a un qui a tué plein de monde en Irak. Ces recruteurs, il faut les condamner à des peines extrêmement sévères. En Albanie et en Macédoine, ils sont punis plus sévèrement.
Albert Berisha, lui, est un revenant. On en compte une centaine, comme lui au Kosovo. Il n'est pas bavard sur ceux qui l'ont embrigadé et qui ont organisé son voyage. On n'en saura rien. Pourtant, ce trentenaire a bien séjourné en Syrie il y a 4 ans. Il en est reparti très vite, à l'issue d'un séjour éclair de 13 jours. Combattre Bachar al-Assad, c'était sa principale motivation à l'époque pour se rendre sur place.
Je suis allé là-bas pour aider les gens qui étaient en train d'être tués et pillés par ce régime. Nous avons vécu une situation similaire à l'époque de Milosevic. Mais sur place, j'ai vu que tout ça n'avait aucun sens, que tout le monde se faisait la guerre. Je suis revenu à Pristina. Je sais qu'on ne peut pas aider en allant là-bas. On risque juste de se retrouver dans un groupe pas très recommandable et de rajouter du malheur aux gens là-bas.
Albert Berisha veut, dit-il, dissuader d'autres Kosovars de se rendre en Syrie et en Irak, alors il accepte de témoigner publiquement, comme ce matin-là lors d'une table ronde organisée à Pristina. Il attend son procès, il risque une condamnation entre 5 et 15 ans de prison, comme tous les combattants qui reviennent de Syrie et d'Irak. Les départs, d'ailleurs, se sont arrêtés depuis que cette loi a été votée. C'est la preuve pour le vice-ministre de l'Intérieur que le gouvernement kosovar lutte efficacement contre la menace djihadiste Valdet Hoxha.
Le gouvernement agit sur plusieurs plans. D'abord, nous avons adopté une loi qui interdit à nos concitoyens de se rendre sur des terrains de conflits étrangers. Et certaines personnes ont été incarcérées par des tribunaux pour l'avoir fait. Dans le même temps, nous réfléchissons à mettre en place des programmes de réinsertion. Nous ne voulons pas seulement condamner ces personnes, mais nous souhaitons aussi les convaincre qu'elles avaient pris une mauvaise décision. Nous voulons qu'elles reprennent leur vie sociale, leur vie familiale.
Les djihadistes et les imams radicaux finissent donc en prison. Les mosquées extrémistes sont fermées. La communauté islamique officielle commence également à mettre son nez dans les prisons. Elle fait la chasse à la propagande et aux imams radicaux, peu inquiétés jusque-là. Pour empêcher tous ces départs, il aurait fallu réagir il y a bien longtemps, estime pour sa part l'imam Idriss Bilali. Avec d'autres responsables religieux, il a constitué un groupe contre la radicalisation. Dans la petite ville de Podujevo, où nous le retrouvons, il a placé un petit drapeau américain sur son bureau.
Dès 2008-2009, nous avons abordé ce problème avec des imams. En 2011, avec des collègues, nous en avions même parlé publiquement. Nous voulions empêcher des gens de s'engager dans cette voie, de se mêler d'un conflit qui ne nous concerne pas, ni en tant que nation, ni en tant que musulmans. Cela aurait pu être stoppé plus tôt, mais les institutions religieuses ont été négligentes au début.
Malgré un nombre record de Kosovars partis faire le djihad, aucun attentat n'a encore été commis au Kosovo, dont la majorité des habitants sont albanais. Les connaisseurs de la région ont une explication, la peur d'une éventuelle vengeance. Les familles de victimes pourraient s'en prendre à la famille de l'éventuel tireur, selon le code d'honneur local. Le kanoun est le droit coutumier médiéval albanais et il est encore respecté au Kosovo.
Stuba Viertel in der Nacht, der Kibala sind immer wach. Das Dezentral hat meistens offen. Am Stern wollen's dann Shit verkaufen. Nur da, da die das niemals lachen. Am liebsten eh nur manchmal ein bisschen besoffen.
Ce sont des vidéos satiriques qui font beaucoup rire en Autriche. Une comédienne austro-polonaise a décidé d'apprendre le dialecte viennois et elle le fait avec un vrai sens de la dérision. Un petit cours de langue qu'a suivi Céline Béal.
En Autriche, on parle allemand, officiellement. En réalité, il y a un accent et un vocabulaire particulier dans la République alpine. Compliqué, mais pas du tout. Une jeune comédienne austro-polonaise a récemment fait le buzz sur Internet avec une vidéo ludique et humoristique à destination des étrangers.
Vous êtes de passage dans la belle ville de Vienne, mais vous ne parlez pas allemand. Vous voudriez tout de même vous fondre dans la masse ? Pas de souci, pour devenir un vrai Viennois, vous n'avez besoin que d'un mot.
Oida, ou en français, mon vieux. C'est une interjection typique de la capitale des Habsbourg que l'on peut utiliser dans pratiquement toutes les situations. Eva Plaschinska s'amuse à en illustrer pas moins de 23 usages.
Disons que vous voulez dire « je suis désolée ».
Oida ?
Je suis blessée.
Oida !
C'est une bonne surprise.
Oida !
Parmi les situations qu'elle invente, on notera en particulier Vienne est une si belle ville. Oida. Et oh là là, j'ai mangé trop de schnitzel. Oida. Des vidéos plus sérieuses tournent aussi sur le web. L'allemande Patricia, de la chaîne Don't Trust the Rabbit, a ainsi récolté plus de 400 000 vues avec son analyse de la prononciation autrichienne, un sujet qui semble fasciner en Allemagne.
De manière générale, je dirais que les Autrichiens ouvrent leur bouche plus grand pour les sons A, E et I.
Fat, fat, nicht, nicht.
Et ils avancent la mâchoire inférieure pour les O et les U.
Ungewohnt. Ungewohnt.
Depuis quelques années, le dialecte autrichien fait un grand retour à la télé, dans la musique pop et en ligne. Les blogueurs germanophones se lancent même des dialectes challenge.
Hello friends, Michael Buchinger here.
Lors de ces challenges, des stars de l'internet se mettent au défi de deviner la signification d'idiomes de leur région. Comme par exemple cet échange entre l'Autrichien de l'Est, Michael Buchinger, et celui du centre, Aquamarine. Les deux compères expliquent qu'il n'y a pas un dialecte autrichien, mais des dialectes qui diffèrent grandement d'une ville à une autre et d'une vallée à une autre. Mais petit à petit, les parlers s'uniformisent et les riches patois autrichiens pourraient bien tomber définitivement en désuétude, à moins qu'ils ne soient sauvés par Internet et ses vidéos virales.
Parler les migrants à la première personne en leur demandant d'écrire une lettre à l'un de leurs proches. C'est comme cela qu'est née l'encyclopédie des migrants, une somme colossale de 400 témoignages, édités en 4 langues, l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. Ce sont des associations qui travaillent sur l'intégration qui ont recueilli tous les textes. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Avec vous, j'ai appris qu'être émigré, c'est une condition, mais ce n'est jamais une limitation. J'ai appris aussi que chacun peut être tout ce qu'il veut, n'importe où. C'est ce qu'écrit Abigail Cosme, originaire de Saint-Thomé, à ses parents. C'est l'un des témoignages de l'encyclopédie des migrants, qui à l'heure du numérique est pourtant édité en livre. Ce témoignage fait partie des 400 recueillis auprès de migrants dans 4 pays. Espagne, France, Grande-Bretagne, Gibraltar et Portugal. Tout a commencé il y a 3 ans. Avec l'idée de l'artiste espagnol Paloma Fernández Sobreño, vivant alors à Rennes, de vouloir présenter les migrants de manière plus intime. Ce projet transnational a obtenu le soutien de l'Union européenne et concerne 8 villes. Rennes, bien sûr, Brest, Nantes, Porto, Lisbonne, Cadix, Riron et Gibraltar. Chacune des municipalités s'est engagée à soutenir financièrement l'élaboration du projet et à confier sa réalisation à des associations d'intervention locale. L'affaire n'était pas aisée. Il a fallu trouver 50 émigrés dans chacune des villes qui acceptent de parler d'eux à la première personne dans une lettre adressée à un de leurs proches restés au pays et accepter aussi d'apparaître en photo. Le but était d'expliquer leur sentiment de délocaliser et d'immigrer. Chaque témoin pouvait choisir la langue qu'il voulait pour sa lettre manuscrite. Résultat, une tour de Babel impressionnante de 74 langues et 103 pays représentés. Le livre contient 16 essais scientifiques sur la migration. Mais s'il s'agit bien d'un travail classique de compilation, cet aspect scientifique est atténué au profit de l'artistique en mettant au centre de l'objet le matériau humain. Si, sans grande surprise, les témoignages mettent en avant l'éloignement et la nostalgie, le livre n'est pas seulement une litanie de la misère du monde. L'espoir s'y est abrité dans ces pages. À charge maintenant pour chacune des 8 villes détentrices d'un exemplaire de le faire connaître pour bousculer les préjugés sur les migrants. Et parce qu'il faut vivre avec son temps, une version numérique pourra être consultée sous condition.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.